Ismaël au Kasha oriental. J'ai réussi totalement ce qui
se passe. Moi, c'est une compagnie au Kasha oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'être très nombreux en RDP à travers le monde pour participer à votre émission Parole aux auditeurs. L'insécurité se porte de plus en plus bien dans différentes villes de la RDC, insécurité causée notamment par des hommes armés non identifiés. Quelques exemples le témoignent, 47 éléments de la police d'intervention rapide tués par des jeunes gens armés du clan Enyilé à Dongo, localité située au nord-ouest de l'Équateur, marche pacifique organisée dernièrement par les habitants de Lubero au Nord Kivu pour protester contre l'insécurité, ainsi que des assassinats enregistrés dernièrement dans la ville de Kinshasa. Alors, question, quel mécanisme mettre en place pour arrêter la circulation illégale d'armes en République démocratique du Congo? C'est la question principale de votre émission Parole aux auditeurs de ce mardi 3 novembre 2009. D'après l'ONU, on estimait déjà en 2004 à 500 millions le nombre d'armes légères en circulation dans le monde, dont plus de 100 millions en Afrique, soit l'équivalent d'une arme pour 12 personnes en Afrique. Des chiffres qui font froid au dos. Pour en parler, nous avons un invité. Il s'agit de Monsieur José Ikongo. Il est directeur secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de violence armée en République démocratique du Congo, et c'est une structure du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Bienvenue à vous tous qui venez de nous prendre en cours.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ta@radiookapi.net.
Monsieur José Ikongo, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes de cette structure du ministère de l'Intérieur, de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et des réductions de violence armée en République démocratique du Congo. J'ai quand même donné des chiffres qui font froid au dos. Plus de ça, en 2004, l'ONU parlait de 100 millions d'armes qui circulaient en Afrique, soit l'équivalent d'une arme pour 12 Africains. C'est quand même des chiffres qui font froid au dos, n'est-ce pas?
Oui, je vous remercie d'abord pour m'avoir invité.
Je vous en prie.
Et je crois que ces chiffres, normalement, au jour d'aujourd'hui, c'est dépassé. Mmh. Puisque à la 64e réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies, que je viens de participer, donc aujourd'hui, les armes légères sont comparables aux armes de destruction massive et aux armes nucléaires. C'est ce qui a fait que, au moins par an, c'est 400 000 morts et occasionnés par les armes légères. Avant que...
Ça, c'est pour le monde entier.
Pour le monde entier. Donc, 400 000 morts chaque année.
Mmh.
Et c'est occasionné par l'utilisation des armes légères de petit calibre. Et vous allez me donner un peu pour vous retracer un peu l'historique de la Commission nationale sur le contrôle des armes légères et des petits calibres.
Oui, bien sûr, on va le faire, mais avant cela, est-ce que vous avez des chiffres aussi pour, en ce qui concerne la République démocratique du Congo? Combien d'armes circulent illégalement ici?
Normalement, la vitesse de circulation en République démocratique du Congo, c'est 7000 armes par mois.
7000 armes
par mois.
Nouvelles armes qui entrent au Congo.
Nouvelles armes qui entrent au Congo et compte tenu de la superficie que vous connaissez de la République démocratique du Congo,
oui.
2 345 000 km², vous avez aussi, nous avons 10 300 km de frontière,
oui.
Et nous avons également 9 pays voisins qui partagent la frontière de la République démocratique du Congo et par Guinée. Tous ces pays voisins, c'était des pays qui venaient de conflits.
Mmh. Et au total, il y a combien d'armes légères, illégales, ici en République démocratique du Congo? Parlons simplement d'armes, hein, parce que quand on est détenu illégalement.
Normalement, on ne saura pas déterminer, puisque quand je vous donne le chiffre de 7000 armes, de la vitesse de circulation par mois, vous pouvez imaginer au niveau par an, ça circule combien? Et il y a les guerres successives que la République démocratique du Congo a connues. Et en dehors des guerres, il y a maintenant le problème, le phénomène du courtage. N'oubliez pas que le courtage, même si je suis avec vous ici, à l'émission, je peux me placer au Canada, aux États-Unis, et je commande les armes illégales. Si on appelle la circulation des armes illicites, ce sont les armes qui ne sont pas contrôlées. Ce sont les armes qui ne sont pas autorisées par le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Voilà, monsieur José Ikongo, je rappelle que vous êtes directeur, d'abord, mais aussi secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de violences armées. C'est une structure du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc j'ai essayé de faire mon petit calcul quand vous dites qu'il y a 7000 armes légères qui entrent de façon illégale en République démocratique du Congo. Donc par an, c'est à peu près 84000 armes qui entrent illégalement dans ce pays. Voilà, on va vous accorder l'occasion de parler également de votre structure, mais on va aussi écouter la population qui est déjà en ligne. Il s'agit notamment d'Alba de Lumbashi Katonga, frère de Haut de Kinshasa, et Guillaume qui lui interviendra parce que demain il est dans la province orientale.
Ok, merci.
Parole aux auditeurs.
Alba, bonjour. Alba n'est pas en ligne. Frère Déo, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, Claude.
Bonjour, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute. Quelle est votre contribution à propos de ce débat sur le trafic illégal, la circulation illégale d'armes ici en République démocratique du Congo?
Merci, Claude. Permettez que je puisse commencer par un petit témoignage dont nous-mêmes avions été victimes. Parce que nous sommes des réfugiés, comme je suis le Kinshasa, nous dirigeons deux grandes écoles qui sont ici à Kinshasa, qui Nyafani, Mikondo, l'Institut Mwanza et l'école primaire Mwanza. Au mois de juillet passé, nous avons été victimes de deux cas de vol perpétrés en moins d'une semaine. La première fois, les hommes en armes non identifiés, les hommes en armes sont entrés, ils nous ont pris un grand groupe électrogène de 3 KVA. Et 4 jours après, ils sont venus. Nous avons un grand bâtiment construit par le Fonds social de la République, un nouveau bâtiment. Ces gens, cette fois-là, du moins, avaient été bien identifiés par nos veilleurs, nos sentinelles. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils ont arraché, Claude, toutes les portes du bâtiment, toutes les portes alors métalliques, je dis bien. Ils les ont arrachées, ils sont partis. J'avais même fait des témoignages lors de la rencontre convoqué par Monseigneur l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Monsengo, à la paroisse Saint-Joseph de Matoumbi au mois de juillet. J'ai même dit ça. Donc, ils sont venus, ils ont pris tout cela, ils sont partis.
Mais ça, c'était au mois de juillet, dernier.
Au mois de juillet est passé. Donc, c'était vraiment malheureux. Vous voyez, c'est un bâtiment de classe. Bon, ce que je voulais dire, c'est ceci.
Et vous n'avez pas appelé la police pour vous prêter main forte?
Oui, c'était autour d'1 heure, 2 heures, vous voyez, les hommes en armes sont très dangereux la nuit. La police, malheureusement, est arrivée, mais c'était tard, ils étaient déjà partis. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je disais que j'encourage pratiquement l'action de l'ONG Tarek. Tarek avait initié une opération, donc une arme, 100 dollars.
Mais contre 100 dollars, oui.
Contre 100 dollars. Or, chez nous, ici, à Kingasani, vers Mikondo, parce que l'Institut Mwanza et l'école primaire Mwanza les deux écoles sont situées à Kingasani, Mikondo, il y a les armes qui circulent vraiment librement. Or, Paris devrait, en principe aussi, venir récupérer toutes ces armes dans ce contrée, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, et autour des 21 heures, les gens sont vraiment immobilisés, ils ne savent plus circuler. Donc, il faudrait que cette opération mais puisse continuer pour que les gens soient sécurisés.
Voilà.
Et que notre invité venait de dire est une réalité. Il y a beaucoup d'armes qui circulent et qui ne sont pas contrôlées. Voilà un peu ce que je peux dire, Claude, s'il y a autre chose.
Merci beaucoup, frère Déo, pour votre témoignage. Depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Frère Guillaume, vous êtes à Mahagui, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, essayez de vous éloigner de votre poste récepteur radio. Vous êtes donc dans la province orientale. Vous avez suivi ce témoignage du frère Déo depuis Kinshasa, notamment dans la commune de Kingasani. Et est-ce que chez vous, ça se passe aussi comme ça?
Bon, chez nous, ça ne se passe pas comme ça, mais effectivement, c'est dans notre chef-lieu de district qu'on raconte les décrets, par exemple. Si vous voulez quitter, par exemple, Mali pour aller à Bounia, donc c'est parce que voilà que vous avez compris les décrets, c'est mais ici, à Mali, il y a certains, on est discuté là avec des structures de complicité de l'Ouganda. Ils arrivent aussi à faire ça, c'est aussi des soirées à Mali. Et tout ça, on parle toujours des hommes non identifiés, et c'est difficile aussi de confirmer. Bon, moi concernant l'insécurité, moi, je ne mets pas la responsabilité au gouvernement. Parce que si aujourd'hui nous parlons de l'insécurité, c'est à cause des propositions des autres que le gouvernement ne respecte pas. Bon, par exemple, je vais vous prendre là, permettez-moi de prendre un petit exemple, s'il vous plaît.
Rapidement, parce que là, on ne vous entend plus, on ne vous entend pas très bien, parce qu'il y a un petit bruit de fond. Hein. S'il vous plaît, soyez bref, si je vous ai bien compris, il y a des armes qui viennent de l'Ouganda, qui entrent illégalement, notamment à Mali, dans la province orientale. C'est ce que vous aviez dit et qui a vous donné cette responsabilité au gouvernement congolais, c'est ça?
Non, je vous ai dit ceci, je ne sais pas si je dis comme ça. Si par exemple il y a l'insécurité aujourd'hui, c'est à cause des propositions des autres que le gouvernement ne respecte pas. Je vous ai parlé, j'aimerais vous prendre là un petit exemple. Concernant par exemple la matière de l'amnistie, le gouvernement congolais qui considère seulement ceux du Nord qui votent et ceux du Nord qui votent du Sud qui votent comme les Congolais. Alors que ici aussi en Ituris, nous avons des hommes là qui sont dans les prisons de Makala depuis 2004 et ils n'ont pas encore bénéficié de l'aide.
S'il vous plaît, Guillaume, ce n'est pas ça le thème de notre émission. Merci beaucoup de votre intervention depuis Mahagui, c'est dans la province orientale. Alba, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour.
Bonjour, M. Claude Etianga. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Katanga.
Alors, vous avez suivi les chiffres, hein, à peu près 100 millions d'après l'ONU. En 2004, il y avait 100 millions d'armes qui circulaient de façon illégale en Afrique, soit une arme pour 12 Africains. C'est des chiffres quand même qui font foi au dos. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qui est fait, c'est que c'est une pratique qui est entretenue par cela même qui devrait sécuriser la population, c'est-à-dire les institutions de chaque État qui devraient mettre en place des services organisés, bien payés, bien structurés pour contrôler l'utilisation des armes. Mais on voit que les gouvernements et tous les États différents du continent africain ont abandonné les systèmes à la main des militaires eux-mêmes ou des policiers qui commencent à détenir illégalement ou clandestinement des armes chez eux qui deviennent définitivement des armes individuelles. Alors cela a fait que chacun, parce que impayé, parce que n'ayant pas de moyens comment survivre à ses besoins, il peut facilement être tenté d'utiliser son arme pour au moins avoir quelque chose pour sa vie. Donc c'est un peu ça. On est tombé dans des thèses que nous avons tendues nous-mêmes, le fait qu'on n'est pas responsable totalement de la gestion du système militaire.
Alba, s'il vous plaît, mais vous avez entendu M. Ikongo, qui est du ministère de l'Intérieur, qui est notre invité, dire que nous avons une frontière d'à peu près 10 000 kilomètres, si je l'ai bien compris, et que nous avons aussi des frontières avec 9 pays voisins. Est-ce que vous pensez que c'est facile de contrôler la circulation illégale d'armes avec 9 pays voisins?
Oui, c'est exactement ça, parce que la mission de l'État n'est pas de laisser un espace incontrôlé au profit du pays étranger, au profit de sa grandeur. Ce n'est pas la grandeur du pays qui doit favoriser l'insécurité. C'est par contre notre responsabilité qui doit sécuriser notre pays. Comment lui veut-il exposer toute son irresponsabilité ou l'irresponsabilité de l'État congolais à la face du monde de la manière? Ce n'est pas question que nous avons plusieurs, mais il y a des pays, ce n'est pas seulement le Congo qui a beaucoup de frontières. Mais s'il dit cela, c'est-à-dire que même une frontière peut nous définir difficile à être sécurisée.
Voilà.
Donc, j'ai raison.
Merci beaucoup, Alpha, pour votre intervention depuis Lubumbashi, la capitale plus préférée, c'est Tokatanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. Salutations à tous ceux qui nous suivent dans cette partie du Congo, pourquoi pas en Zambie et dans les pays environs. Je reviens à vous, monsieur José Ikongo. Vous êtes de la structure chargée de la régulation ou de la surveillance du trafic illégal ou de la circulation illégale d'armes. C'est une structure qui s'appelle Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de violences armées en République démocratique du Congo. Vous en êtes le directeur et secrétaire permanent. Vous avez entendu un auditeur parler de l'ONG PAREC qui avait lancé une opération qui s'appelait Armes contre 100 dollars. Qu'est-ce que vous en pensez, que ça peut aider à réduire la circulation illégale d'armes légères? Qu'est-ce que l'État fait? Il laisse tout au PAREC?
Je vous remercie pour cette observation. Pour l'ONG PAREC, je commencerai d'abord par faire le clairage chez Alba, qui n'a pas compris la préoccupation que j'ai donnée.
Mm-hmm.
Sinon, tout au début, j'avais dit que la République démocratique du Congo a un défi à remonter. Et ce défi, c'est compte tenu de sa superficie, compte tenu de ses frontières et compte tenu de ses pays voisins. Il n'a pas été question pour dire que, puisqu'il y a une frontière, donc Alba n'a pas compris la préoccupation. Donc c'est ça le défi que la République démocratique du Congo doit remonter par rapport aux exigences de la communauté internationale et la communauté nationale. En ce qui concerne le problème de l'ONG PAREC, je crois même la commission avait loué cette initiative, mais en ce qui concerne la récupération des armes en donnant de l'argent, personnellement, en tant que secrétaire permanent, je n'épouse pas totalement cette option. Pourquoi? Puisque l'option devait nous amener dans un cercle infernal. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous appelez les gens à récupérer les armes, vous leur donnez de l'argent, mais vous oubliez que vous armez encore cette population, puisque ça devient maintenant l'arme, devient maintenant pour la population, devient maintenant pour ceux qui le remettent comme un bien économique.
On a entendu quelqu'un qui avait été arrêté dernièrement dans l'Équateur, il détenait des armes, il disait que s'il les détenait, c'était pour attendre la venue du PAREC et les échanger contre de l'argent.
Voilà, maintenant ça devient un bien économique et c'est dangereux pour l'État congolais.
Vous condamnez le PAREC, mais qu'est-ce que vous faites?
Je ne condamne pas le PAREC, mais j'ai dit toutes les énergies doivent s'unir pour faire face à ce que nous entendons. Pour la commission, qui est l'instrument du gouvernement, PAREC, c'est une ONG qui appartient, qui fait partie intégrante de la commission nationale, puisque dans la commission nationale, il y a les ONG qui participent pour la sensibilisation et autres. Mais au niveau du gouvernement, d'abord, il faut partir par les textes. Et quand je parle du texte ici, c'est-à-dire la législation voitures, les armes légères et de petit calibre.
Mais quand la législation n'est pas appliquée. Hein.
Voilà, non. La législation.
C'est bien d'avoir des textes.
C'est bien d'avoir des textes. Hein. Et que la législation, en ce qui concerne, puisque, n'oubliez pas, monsieur, que les armes font partie de la sécurité humaine. Et la législation sécuritaire, même si la République démocratique du Congo est un pays conflit, post-conflit, je m'excuse, et nous venons de loin. Et que la République maintenant doit repartir sur les bonnes bases. C'est ce que le chef de l'État même lui a appelé, donc, le chantier. Voilà. Et la plus grande des chantiers, c'est ça, la récupération et la lutte contre la prolifération de ces armes.
Voilà, on va vous demander comment vous les faites, cette récupération d'armes, c'est à travers des bouclages, c'est à travers quoi. Donc, on va vous poser cette question, mais on aura le temps aussi d'écouter d'autres auditeurs qui sont déjà en ligne, notamment Roger de Kinshasa et Prince d'Ouvira au sud de Kivu.
Soucieux de vous servir, Radio Okapi met à votre disposition toute une équipe de reporters et de présentateurs. Ils voient ce que vos yeux ont appris à ignorer, s'intéresse à vos problèmes et surtout aux solutions possibles. S'inquiète de l'absence de suivi et réfléchisse avec vous. Okapi Service, une émission qui vous met au centre des préoccupations, les vôtres, de lundi à vendredi, à partir de 9h, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet et @radio-okapi.net.
L'insécurité se porte de plus en plus bien dans différentes villes de la République démocratique du Congo. Vous l'avez compris, c'est le thème qu'aborde aujourd'hui votre émission Parole aux auditeurs, l'émission qui vous donne la parole pour vous exprimer librement et participer à ce débat citoyen qui concerne les problèmes de notre pays. Alors, cette insécurité causée par des hommes armés non identifiés, quelques exemples le témoignent. Il y a eu dernièrement 47 éléments de la police d'intervention rapide qui ont été tués par des jeunes gens armés du clan Inyele à Dongo, localité situé au nord-ouest de l'Équateur. Il y a eu dernièrement également une marche pacifique organisée par les habitants de Lubero au nord Kivu pour protester contre l'insécurité qui sévit là-bas, sans oublier les assassinats enregistrés ici même à Kinshasa. Alors, question, quel mécanisme mettre en place pour arrêter la circulation illégale d'armes en République démocratique du Congo? C'est la question principale de votre émission Parole aux auditeurs de ce mardi 3 novembre 2009. D'après l'ONU, pour vous compléter, on estimait déjà en 2004 à 500 millions le nombre d'armes légères en circulation dans le monde, dont plus de 100 millions pour le seul continent africain, soit l'équivalent d'une arme pour 12 Africains. Des chiffres qui font bien sûr foi au dos. Alors nous avons également les chiffres qui nous ont été donnés par M. José Congo, qui est du ministère de l'Intérieur. Il a parlé d'à peu près 7000 armes qui entrent illégalement chaque mois en République démocratique du Congo. Et ça fait à peu près plus ou moins 84 000 armes qui entrent chaque année illégalement dans ce pays. Vous voulez participer à cette émission, vous avez trois possibilités. La première, appelez-nous directement au 081-99-77-800, 081-99-77-800. Appelez-nous et nous allons vous rappeler pour vous faire intervenir. La deuxième possibilité, c'est de nous envoyer juste votre point de vue, votre commentaire et analyse par SMS au 09-98-999-222, 09-98-999-222, c'est notre numéro SMS. Vous pouvez également nous envoyer juste un numéro de contact et un prénom pour que nous puissions vous rappeler, vous faire participer en direct à cette émission. La dernière possibilité, je sais que vous êtes très très nombreux à nous suivre partout à travers le monde et à travers la RDC en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Belgique et partout ailleurs. Alors, si vous nous suivez à travers l'Internet ou à travers votre matériel DSTV sur le canal 167, vous avez la possibilité de nous envoyer un mail à travers un courrier électronique à l'adresse pa@radiookapi.net. N'oubliez pas, Radio Okapi s'écrit en un seul mot avec deux lettres au collé au milieu. Nous avons comme invité M. José Ikongo, il est directeur et secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée en République démocratique du Congo. Eh bien, Roger, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Et bonjour Claude.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la circulation d'armes illégales? Il est peut-être difficile d'éradiquer totalement cette circulation illégale d'armes légères. Vous savez, comme l'a dit M. José Congo, nous sommes entourés de 9 pays voisins, et parmi ces pays, il y a des pays post-conflit comme la République démocratique du Congo.
Oui, M. Claude, vous savez, si on en est arrivé là, c'est principalement parce que notre gouvernement manque de politique en matière de police tout court. Et on commence par le recrutement. Quand le recrutement est faussé, le reste, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de la police que nous avons. Vous savez, aujourd'hui, la police est composée, je m'excuse du terme, d'un grand nombre de délinquants qu'on a ramassés à gauche, à droite, et on a fait des officiers. Bon, des officiers jusqu'au rang de colonel, qui ne savent pas pourquoi ils sont là-bas, ils savent que c'est une occasion qu'on leur a donnée pour avoir du pain.
Est-ce que, s'il vous plaît, Roger, quand vous dites que la police est composée d'un grand nombre de délinquants, même des officiers, est-ce que ce n'est pas trop fort de parler quand même des officiers qui sont regroupés parmi des délinquants? Est-ce que ce n'est pas trop fort de votre part?
Vous permettez que je vous donne un exemple?
Oh ben, il ne faut pas citer des noms ici, parce que il ne faut pas personnaliser le débat.
Non, mais je ne personnalise pas le débat.
Ouais.
Il y a 2 semaines, je suis à Iten avec un capitaine de la police.
Ici à Kinshasa.
Ici à Kinshasa, oui. Le capitaine voit un colonel venir, il le salue. À la manière des militaires, à la manière des policiers. Le colonel dit, mon capitaine, yo, t'es. Ah, il dit, mais pourquoi? Il dit, non, non, yo, mon colonel, le quoi, les cas qui m'engagent, c'est Nazaré qui fait les gens, yo, là.
Dites-le en français, s'il vous plaît, pour que tout le monde comprenne.
Non, mais vous ne pouvez pas me saluer. Vous savez comment ces histoires-là se sont passées. Moi, je le sais que j'étais votre sergent à Mouenedito. Alors le capitaine dit, mais d'accord, mais maintenant vous êtes colonel. C'est donc là, il dit, non, c'est là qu'ils ne me connaissent pas, peuvent me dire bonjour, mais pas vous qui connaissez mon cursus.
Et qu'est-ce que cela a à voir avec la circulation illégale d'armes, pour revenir à notre sujet?
Qu'est-ce que cela a à voir de... Bon, des gens qui n'ont pas été formés, il y a des gens, beaucoup de gens qui sont entrés dans la police pour s'enrichir, ils se servent de la police, de la tenue de la police, des armes de la police pour faire n'importe quoi, pour faire le banditisme, et même le trafic d'armes, pourquoi pas.
Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Concluez, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui vous attendent, qui doivent intervenir.
C'est une volonté réaliste de la réforme de l'armée. Et puis qu'on tienne compte de l'éducation, de l'instruction des gens. Vous savez, ça frustre quand on trouve des gens... des gens qui sont recrutés au grade de colonel et qui ont sous leurs ordres des capitaines, des majors bien formés, même des lieutenants. C'est ça mon modeste contribution. Mais moi, je pense qu'on doit beaucoup plus insister sur la réforme de l'armée.
Et du niveau.
En commençant par le recrutement, par des critères objectifs, pas des clientélisme.
Donc, tenir compte également du niveau d'études, c'est ça?
Absolument. Donc, c'est frustrant lorsque vous êtes lieutenant et que vous êtes commandé par un colonel dont la moralité et l'éducation sont approximatives et douteuses.
Merci beaucoup. Merci
à ce moment-là, vous êtes plus craint que respecté et ça a des répercussions sur le fonctionnement des services.
Merci beaucoup, José. Je rappelle que vous intervenez depuis Kinshasa. Nous quittons Kinshasa pour nous rendre à l'est du pays. C'est à Uvira, dans la province du Sud Kivu-Prince. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis à Uvira.
Alors, Uvira, c'est dans une zone où il y a eu quand même beaucoup de groupes armés, il y a eu des rébellions. Quelle est la situation? Est-ce que dans cette partie du pays circule illégalement beaucoup d'armes à cause de la présence des groupes armés?
Bien sûr, vous savez qu'avec l'opération Kinyagé, mais aussi avec la peur que la population a, c'est pour les avoir, soit c'est un plat de balkanisation, les gens ont la crainte.
Non, je demande simplement si à Ouvira, au sud Kivu, en raison du fait qu'il y a eu, nous connaissons, il y a eu la guerre dans cette partie du pays, à l'est, et puis il y a présence quand même de beaucoup de groupes armés, est-ce qu'il y a circulation, il y a eu une forte circulation d'armes de façon illégale dans cette partie du pays?
Bien sûr, il y en a, vous savez que nous sommes à la frontière Et vous savez, la situation de vos frontières, ce sont des frontières passoires. Et cela est complexité par certaines autorités de notre pays.
Mais aussi par la population, par les groupes armés. Il y a aussi une partie de la population qui soutient des groupes armés.
Vous savez, l'insécurité est due du fait que les gouvernants, les autorités que nous avons dans ce pays ne sont pas conscients de ce qui se passe à l'Est. Vous savez que Uvira est séparé par la République rwandaise et les Burundis et les Tanzanies et la Tanzanie.
Mmh.
Alors, s'il n'y a pas de mécanisme caractérisé par une contrainte, la circulation d'armes ici à l'Est ne peut pas prendre fin.
Donc, en gros, qu'est-ce que vous suggérez?
Bon, je suggère qu'il y ait une formation, une restructuration de notre armée, parce que sans cela, vraiment, il y a la population ici à Uvira qui trouve en crainte, et on se dit tout peut arriver à n'importe quand et à n'importe quel moment. Vous savez que nos amis ici à côté, le territoire d'Uvira, et fait le limite avec le territoire de. Il y a eu tropiquement de plan hier. Alors, à Uvira, on a peur. On s'est dit peut-être même aujourd'hui, il peut y avoir quelque chose qui peut se passer. Donc, nous attendons seulement, on ne sait pas. Et puis, ce qui a surgi de l'autre côté de l'Équateur, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle planification qui est en train de se préparer pour notre guerre?
Mais est-ce que, Prince, en tant que population, s'il vous plaît, Prince, éteignez votre radio, ou éloignez-vous-en, parce qu'on en entend l'écho ici. S'il vous plaît, Prince, vous, personnellement, est-ce que vous êtes prêt à dénoncer, si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui détient illégalement des armes, qui les a enfouies dans la forêt ou je ne sais où?
C'est que les gens détiennent les armes ici, pourquoi? Parce que on s'est dit d'un moment à l'autre qu'il y a une guerre. Or, nos gouvernants ne veulent pas sécuriser nos frontières. Et nous avons des jeunes maïmans ici qui ont été rébellions, qui peuvent défendre valablement ce pays. Mais ce que nous regrettons, ce sont des gens qu'on est en train de négliger. Alors, vous comprenez donc.
Mais est-ce que vous dites que les gens ont des armes chez vous à Uvira parce qu'il peut se passer n'importe quoi? Mais est-ce que ce rôle n'appartient pas à la police, à l'armée? Est-ce que c'est à la population de se défendre ou bien il faut plutôt laisser cette tâche à la police et à l'armée?
Bon, vous savez, notre population actuellement a déjà refusé sa confiance à notre gouvernement et à nos dirigeants parce qu'il s'est dit qu'il y a une certaine complexité qui est en train de se voir de la part des autorités tant provinciales que nationales, même locales.
Merci beaucoup pour votre intervention depuis Uvira dans la province du Sud Kivu.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Gabi, vous êtes à Kinshasa, vous avez suivi le précédent auditeur qui est intervenu à partir d'Uvira, il dit que il faudrait, ce n'est pas une thèse que nous soutenons ici à Radio Capi, mais il dit que s'ils ont des armes là-bas, c'est parce qu'il peut se passer n'importe quoi, la population doit se défendre parce qu'il accuse l'État de ne pas faire assez pour protéger la population. Est-ce que vous pensez que c'est là, ce genre de propos ou bien ce genre de comportement ne peut pas favoriser la circulation illégale d'armes et que c'est dangereux peut-être pour le pays?
Oui, merci. Monsieur Kianga, bonjour.
Bonjour.
Je salue également Monsieur José qui est votre invité et tous les fervents auditeurs de Radio Okapi. Pour rappel, je suis votre fervent intervenant d'ici en séjour à Kinshasa.
Mmh.
Une première observation, je parlerai d'abord du PAREC.
Non, réagissez d'abord par rapport à ma question. Que ce n'est pas une chaise dangereuse comme ça, que la population détienne des armes, comme à Uvira, pour se défendre, alors que cette tâche revient à l'armée et à la police.
Ok, je vous vois venir, parce que derrière un petit peu d'une argumentation, si je commençais par là.
Allez-y.
Bon, le PAREC, dans mon entendement, bon, je n'appuie pas totalement l'idée de M. José. Vous peut-être déplorer ce que le PAREC fait. Mais par contre, moi, j'aurais plutôt souhaité que le PAREC commence par les zones post-conflit. Hein, là où il y a eu des guerres, et ça, là où l'opération allait avoir un grand impact. Au lieu de commencer par Kinshasa. Et comme vous l'aviez témoigné, ça allait devenir un champ de commerce. et les gens allaient amasser l'arme parce que vous avez déploré un cas qui est arrivé quelque part, où les gens se préparaient déjà pour attendre l'arrivée du parec et pour faire la transaction de ces armes-là. Mais moi, je situe la problématique à tous les trois niveaux. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement condamner ce qui est visible, accessible à tout le monde, vous en doutez, n'est-ce pas? Mais plutôt, moi, je situe cela à trois niveaux. Le premier niveau, au niveau de la communauté internationale à travers tous les organismes, indistinctement. La deuxième, au niveau de notre armée et notre police. Et la troisième, au niveau de la population tout entière. Bon, il faut rendre accessible, par exemple, aux installations portuaires, aéroportuaires, par exemple, de certains organismes internationaux. Que nos gens, nos vérificateurs, nos dépôts, tout ça, qu'ils arrivent, qu'ils vérifient ces mal là-bas. Hein, ce sont des endroits où les gens n'accèdent pas. À Bounia, hier, on sait ce qui se passe, il y a à boire et à manger dans tout ça. Parce qu'on condamne la population congolaise, mais on ne sait pas si la communauté tient, la communauté internationale. À tous les trois niveaux, la transaction d'armes se passe. Mais je crois qu'il faut un peu du sérieux, qu'on donne voie accès à nos vérificateurs, à nos contrôleurs, qui vérifient ce qui se passe dans les installations aéroportuaires et par terre de la communauté internationale. Parce que quelque part, il y a un bruit sous roche. Hein, des histoires sont cachées et puis après, on va condamner la paisible population. Voilà ma modeste conclusion.
Voilà, ça, il faut vérifier cette information que réellement les organismes internationaux font entrer des armes en République démocratique du Congo. C'est une chose qu'il faudra vérifier. Voilà, et répondez finalement à ma question. Est-ce que la proposition ou la révélation faite par Prince Ouvira qui dit que là-bas, Ouvira, la population détient des armes parce que elle se tient prête à se défendre. Est-ce que ce n'est pas une thèse dangereuse parce que,
c'est dangereux parce que vous vous souvenez, monsieur,
ça s'est
passé à Kinshasa quand il y avait des casses d'armes un peu partout, tout ça. C'est une hypothèse, une solution vraiment à punir, à saisir, à telle enseigne que ces mêmes armes qui peut-être prétendraient servir la population à légitime défense peuvent toujours retourner entre nous. Mmh. Moi, je ne puisse pas cet avis-là. Il faut décourager cela et peut-être paraître à travers son animateur, prêcher à ces gens-là. Et ce n'est pas les armes qui peuvent faire la guerre,
merci
la
beaucoup.
Guerre, mais c'est plutôt la conscience.
Merci
la solidarité africaine ne vaut pas perdre de vue, parce que c'est cela notre apanage en tant que couleur africaine.
Merci beaucoup, Gabi, pour votre intervention depuis Kinshasa. Voilà, donc monsieur José Ikongo, vous êtes directeur et secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de réduction des violences armées. Vous êtes notre invité dans cette émission Parole aux auditeurs. Je vous ai vu vous vouliez répondre ou intervenir lorsqu'un auditeur, le précédent auditeur intervenait.
Oui, mais normalement, je crois que nos auditeurs qui nous suivent doivent repréciser les débats et doivent nous suivre de près pour savoir ce que nous parlons.
Mmh.
Je crois qu'il y a Gabi qui a parlé du problème de Parec comme si le secrétaire permanent refusait. Non, je crois, j'ai dit tout au début ici, la Commission nationale a participé ensemble.
Mmh.
Avec Parec dans l'opération de récupération dans la ville de Kinshasa.
Et on a arrêté personne.
On a arrêté personne et c'est une opération qui a réussi. Et
ils ont récupéré combien d'armes, le Parec?
Donc, normalement, c'était plus de 13 000.
13 000 armes.
Armes à Kinshasa.
À Kinshasa seulement.
Oui. Alors, si ces points-là, le secrétaire permanent ou bien le gouvernement congolais ne peut pas refuser une opération qui garantit la sécurité des gens dans la ville de Kinshasa. Je n'ai pas dit, s'ils m'ont bien suivi, je n'ai pas dit que l'opération paraît ou quoi, puisque la preuve en est que la commission en a participé. J'ai dit bien que l'opération paraît, c'est un volet de l'effort du gouvernement congolais. Mais, au jour d'aujourd'hui, je peux vous donner les chiffres, puisque le problème qui se pose, c'est la détention des armes aux acteurs non étatiques. Et si cette détention, l'illicité des armes qui circulent aux acteurs non étatiques est de 89%,
C'est-à-dire, quand vous parlez des acteurs non étatiques qui détiennent illégalement les armes, ça
signifie
quoi?
C'est-à-dire la société civile. Donc, ceux qui ne sont pas des forces de sécurité et de défense.
Il y a aussi des politiques, des politiciens qui détiennent illégalement des armes?
Non, j'ai dit ceci.
C'est une question que j'ai posée.
Suivez-moi normalement que les acteurs non étatiques sont les gens de la société civile, les gens qui font le banditisme, les gens qui ne sont pas des forces de défense et de sécurité.
Mais pourquoi vous ne voulez pas parler aussi des anciens politiciens qui ont combattu dans les différentes rébellions? Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont plus d'armes?
Non, les anciens politiciens, quand vous prenez les anciens politiciens, mais c'est dans le groupe des acteurs non étatiques.
Pas les anciens, mais des politiciens qui ont été dans des rébellions. Ils ont été même leaders des rébellions.
Oui.
Qu'est-ce qui dit que certains d'entre eux, je ne dis pas tous, qu'est-ce qui dit que certains d'entre eux n'ont pas d'armes?
Non.
Effectuer ce contrôle.
Oui, ces armes-là sont contrôlées des anciens politiciens ou autres. Ça, c'est le domaine du gouvernement de la République à travers le ministère de la Défense et des anciens combattants.
Oui, c'est une question qui se pose. Est-ce que toutes les anciennes rébellions avaient remis leurs armes au gouvernement?
Non, normalement, au niveau des anciennes rébellions, ils ont remis. C'est supposé qu'ils ont remis les armes.
Mmh.
Quand le gouvernement de la République démocratique du Congo demande aujourd'hui que tout le monde qui était dans l'ancienne rébellion, avec l'opération Tendeder et l'opération Deder et autres, on suppose que ces anciennes rébellions ont remis les armes, il y a eu la démobilisation, le désarmement et la réinsertion.
Vous dites bien, on suppose.
Donc, c'est ça le problème. Puisque le problème de la circulation illicite,
oui,
vient à 80%, je dis bien à 80%, au niveau de la population,
mmh,
et de la société civile.
Ouais.
Donc, les acteurs non étatiques. Tandis qu'au niveau des acteurs étatiques,
mmh,
les armes qu'ils possèdent sont dotées et sont contrôlées par le gouvernement congolais.
Mmh.
Et c'est ça l'effort du gouvernement congolais. Et je vous dis aujourd'hui, le gouvernement congolais vient, je l'ai dit bien avant, d'une grande période. Il faut compter depuis 1967 avec les gens Scram, avec tout le monde, toutes les guerres qui se sont succédées. Et il faut voir maintenant l'effort du gouvernement vers cette contrôle, vers cette lutte.
Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de continuer votre idée.
Ces codes économiques sont ici les calculs des provisions économiques, les termes et autres expressions réservées aux seuls initiés, mais aussi le monde du commerce, ses flux et revenus. Ces codes économiques, l'actualité économique plus que jamais simplifiée. Pour mieux comprendre ce qui fait tourner la finance, fait courir les taux et fait marcher l'économie, Écho d'économie sur Radio Capi de 18h15 à 18h30, de lundi à vendredi, et ça ne se calcule pas.
Voilà, donc je rappelle pour vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle le thème qu'aborde aujourd'hui les paroles aux auditeurs, les thèmes de notre débat citoyen. L'insécurité se porte de plus en plus bien dans les différentes villes du pays, insécurité causée par des hommes armés non identifiés. Quelques exemples les témoignent, 47 éléments de la police d'intervention rapide tués par des jeunes gens armés du clan Inyélé à Dongo, localité située au nord-ouest de l'Équateur. Marché pacifique organisé dernièrement par les habitants de Lubero au nord Kivu pour protester contre la sécurité, ainsi que des assassinats enregistrés dernièrement à Kinshasa. Les exemples sont légion et quels mécanismes mettre en place pour arrêter la circulation illégale d'armes en République démocratique du Congo. Il y a à peu près plus ou moins 80 000 armes qui entrent illégalement dans ce pays chaque année, d'après avec M. José Congo, qui est notre invité. Il est directeur et secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions de violences armées. Alors, donc, c'est ça la question principale de cette émission Parole aux auditeurs. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je vous donne aussi les chiffres des Nations Unies qui estimaient en 2004 à 500 millions de dollars, à 500 millions le nombre d'armes légères en circulation dans le monde, dont plus de 100 millions pour le seul continent africain, soit l'équivalent d'une arme pour 12 Africains. C'est des chiffres qui font foi au dos. Je vais vous donner aussi d'autres chiffres. Toujours selon l'ONU, le trafic d'armes est l'une des trois activités illégales les plus lucratives, avec le trafic de drogue et la prostitution. Et le marché international du trafic d'armes est évalué à 1200 milliards de dollars par an. Voilà, ça vous donne une idée. Nono, vous êtes à Bandounouville, dans la province de Bandounou. Bonjour.
Et bonjour, M. Claude. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, pour réduire la circulation illégale d'armes en République démocratique du Congo? Est-ce que la police nationale doit procéder par des bouclages dans chaque quartier, dans chaque commune?
Non, M. Claude, pour ne pas parler seulement de la circulation illégale des armes en RDC, il y a beaucoup de mots qui rongent même cette société congolaise en général. Et pour ça, selon moi, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Il n'y a pas vraiment la présence de l'autorité de l'État partout où nous sommes. Prenons par exemple le cas de Fé Laurent Désiré Kabila. Quand, par exemple, quelqu'un qui commet une infraction,
il y a beaucoup de bruit tout autour de vous, s'il vous plaît. Non, il y a beaucoup de bruit autour de vous, s'il vous plaît. Il y a des enfants. Si vous pouvez vous éloigner un tout petit peu avec votre téléphone portable, s'il vous plaît.
Ok, merci, je me suis éloigné. Je disais ceci. Si nous pouvons prendre un exemple, le fait Laurent Désiré Kabila, quand il est venu, il a quand même instauré l'autorité de l'État. Quelqu'un qui fait une habileté, qui vole, on va les sanctionner même devant la publique. Et vous voyez, de cette façon-là, on a quand même essayé d'éduquer la population. Mais à ce moment-ci, quelqu'un qui détient une arme et qu'il est détecté, il n'est pas puni. Vous voyez que celui-là qui a encore une arme, qu'est-ce qu'il peut prendre comme exemple? Monsieur Claude, en tout cas, ça ne va pas avec l'autorité de l'État. Partout où nous sommes, il n'y a pas l'autorité de l'État.
Est-ce qu'il y a la circulation d'armes illégales, d'armes légères ou pas, est assez intense dans la ville de Bandundu?
Non, pour ne pas confirmer, dans la ville de Bandundu, il n'y a pas de tels actes.
Il n'y a pas de tels armes. Merci beaucoup pour votre contribution depuis la ville de Bandounouville, capitale de la province du Bandounou. Nous quittons l'ouest du pays pour nous rendre au centre. C'est en Boujimaï, précisément dans la province du Kasaï oriental. Maître Paulin, bonjour. Maître Paulin, bonjour. Maître Paulin semble ne pas être en ligne. Nous quittons le centre du pays pour nous rendre au sud-ouest, dans la province de Kolwezi, au Katanga. Janvier, est-ce que vous êtes là?
Ah oui, je suis là, M. Claude.
Alors, on vous écoute.
Ah oui, je pourrais dire tout simplement que lorsque l'intervenant qui disait là qu'il y a beaucoup d'armes entrent bien sûr dans la RDC illégalement, comment ça veut-il que nous avons un État bien ordonné, un État de droit, qui peut bien sûr accepter que les armes entrent illégalement? Or, nous avons des frontières, nous avons des services qui font ce travail.
Mais on a 9 pays voisins et puis à peu près 10 000 km de frontières d'après notre invité. Est-ce qu'on peut mettre un soldat ou bien un contrôleur à chaque mètre tout autour du pays? Ce n'est pas possible. Même dans les pays les plus puissants, ça ne se fait pas.
Mais alors, maintenant, parce que même ici à Kolwezi, on a eu ces cas-là dernièrement, les mois, et même maintenant peut-être. Ces cas-là, donc des bandits, des armées, comme ça, c'est là. Maintenant, que l'État fasse un effort, soit des bouclages, peut-être des bouclages, bouclages par quartier ou par commune, ça peut peut-être aller.
Des bouclages, voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous proposez que l'État restaure son autorité à travers tout le pays et puis que la police nationale fasse des bouclages. Merci beaucoup, Janvier, vous intervenez depuis Kolwezi au Katanga. Monsieur José Ikongo, donc vous êtes directeur et secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres de réduction de violences armées. c'est une structure du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il faut faire des bouclages.
Je crois, je vous ai dit ici que la République démocratique du Congo, d'abord, c'est un pays post-conflit. Et au niveau de l'État, il y a les efforts, puisque le Congolais doit suivre ce qui se passe dans leur État. Quand il y a quelqu'un qui affirme que l'autorité de l'État n'est pas rétablie, non. C'est-à-dire, c'est progressif. C'est un processus, un long processus. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, on est en train de déminer les mines de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est pour vous dire que ce processus, la République démocratique du Congo, qui vient de loin, et la République démocratique du Congo, dans tous les États, dont la communauté internationale a assigné cette tâche, est en train de travailler sur ces problèmes-là. Il y a même la sous-information que j'écoute au niveau des autres auditeurs qui dit que la police, mais aujourd'hui, je crois il y a depuis deux ou trois mois qu'il y a la réforme de la police.
Mais ce que c'est vrai, c'est que un auditeur a dit, il y a des gens qui sont passés de sergent à colonel, comme ça, sans formation, qui viennent peut-être de certains groupes armés ou.
Ce sont des histoires que les gens ramassent, je ne sais pas où.
Mais quelqu'un moi, donnait un exemple, hein.
Moi, personnellement, je n'ai jamais assisté, je n'ai jamais vu ou je n'ai lu aucun texte qu'un monsieur qui vient. Il n'a pas étudié, il n'a rien dans sa tête, et que l'on remonte. Non, ça c'est la façon la plus simpliste de voir les choses. Les choses, c'est que nous devons aider l'État congolais, nous les Congolais. Là où nous sommes, nous devons aider l'État congolais.
Dénoncer les personnes qui sont illégalement.
Je n'ai pas encore terminé ma pensée. Aider l'État congolais à accéder à revoir son système de la police, à revoir son système de la sécurité, ce que le président de la République a donné. Et ce sont, même sur la circulation illicite de ces armes-là que nous décrions aujourd'hui, vous aviez suivi, à l'est de la République démocratique du Congo, à Uvira, que quelqu'un qui dit « nous n'avons pas confiance à notre armée », nous n'avons pas confiance à notre police.
Mais comment restaurer
Mais
cette confiance?
Comment restaurer cette confiance? C'est ça la question. Et la restauration de la confiance de la police et de l'armée passe par cette réforme qui est en train de se faire maintenant. Et au niveau de la population.
Il faut que ça s'accélère parce que les gens ont besoin d'être sécurisés. Comme
non, mais ils sont sécurisés. Puisqu'à ouvrir aujourd'hui, quand nous avions suivi les problèmes des guerres qui se passent, il y a l'opération Kimia 1, il y a l'opération Kimia 2, ce n'est pas, n'est-ce pas, un aspect de sécurisation de cette
problème. Voilà, monsieur Jové, comme on va aussi écouter l'auteur, l'initiateur de la loi sur le contrôle d'armes légères, il s'agit du député Louis. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à proposer cette loi?
Mais vous voyez, nous sommes un pays post-conflit, nous pouvons même dire encore en conflit, où les armes sont entrées par toutes les portes, toutes les frontières, et nous sommes inondés par ces armes-là. Vous avez vu dernièrement le président de la République, par le biais d'une ONG, a récupéré beaucoup d'armes à Kinshasa, et l'opération continue à l'intérieur du pays. Et ces armes de fond, ça, on connaît d'où elles viennent. Donc, avec une telle loi, qui n'est que la reconnaissance d'autres lois internationales, nous pouvons, au niveau de la région des Grands Lacs, dans la région de l'Afrique centrale, si chaque pays connaît les armes qui passent par lui, et il y a le système de vérification de ces armes, On peut ainsi protéger la population pour que les armes ne puissent pas aller en désordre ou bien quitter l'armée, aller dans des circuits inhabituels pour l'usage qui peut perdre les armes humaines.
Et combien d'armes entrent illégalement en République démocratique du Congo, d'après vous?
Vous dites combien d'armes qui entrent illégalement?
Oui, chaque année ou chaque mois.
Il n'y a pas de nombre qu'on peut déterminer, nombreuses. Tous les groupes armés. Ils avaient leurs donateurs d'armes qui étaient intéressés. Mais maintenant, nous sommes en train de lutter. Le gouvernement congolais est en train de lutter pour mettre les mécanismes afin que les frontières ne soient plus foreuses, qu'elles soient bien gardées. Et si on saura les armes qui peuvent entrer par tel ou tel pays, parce qu'il y a des systèmes de marquage qui peut faire voir le passage de telle arme par tel pays, on saura de qui a fabriqué, par où l'arme est passée et comment elle est entrée dans notre pays.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la circulation illicite d'armes en République démocratique du Congo?
Commençons d'abord par éliminer les armes que nous avons entre nos mains et répertorier les armes que nous avons. Savoir qui détient l'arme et pour quelles raisons, le reste viendra. Les armes, ça dit, ce n'est pas un problème de la du pays, c'est un problème de toute la région, de tous les pays voisins. Il y a des armes qui ont quitté l'Angola pour le Congo, il y a des armes qui ont quitté l'Ouganda pour le Congo, il y a des armes qui ont quitté l'Ouganda pour le Congo. Toutes les frontières que nous avons donc, c'est à nous maintenant de sécuriser notre population, d'abord en récupérant toutes ces armes et ensuite, en sécurisant les frontières pour qu'il n'y ait plus d'entrée illégale. Et les entrées officielles, c'est-à-dire les armes qui doivent être détenues par les militaires ou les policiers, ces armes doivent aussi être contrôlées. Les militaires doivent détenir que l'arme qu'on lui a accordée n'a pas n'importe quelle arme. C'est ça, donc, c'est tout un processus. Ça demande la volonté non seulement des officiels, mais de toute la population de la République démocratique du Congo.
Voilà, en 30 secondes, parce que bientôt ça sera notre bulletin d'information, est-ce que vous êtes sûr que les politiciens, certains d'entre eux étaient des dirigeants des groupes armés, vous êtes sûr qu'ils ne détiennent pas d'armes, qu'ils ont réuni tous les armes de leurs groupes armés à l'État congolais?
Vous me posez la question si je suis sûr que les politiciens ont réuni toutes les armes.
Oui.
Mais je vous dis que je ne suis pas sûr parce qu'il y a encore d'armes dans notre pays. C'est ainsi que nous sensibilisons tous les citoyens pour qu'ils puissent dénoncer les détenteurs des armes afin que ces armes-là soient à un endroit où l'État peut les contrôler.
Maintenant, dans cette émission, dans votre émission Parole aux auditeurs, l'émission qui vous donne de la voix pour participer à ce débat citoyen sur les problèmes qui touchent tous les Congolais, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous parlons de l'insécurité qui se porte de plus en plus bien dans différentes villes de la RDC, insécurisée, causée notamment par des hommes armés non identifiés. Quel mécanisme mettre en place pour arrêter la circulation d'armes légères en République démocratique du Congo? Pour en parler, nous recevons M. José Ikongo Isekotoko Boyo. Il est directeur et secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de réduction de violences armées, CNC-ALPC, une structure du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Voilà, avant de lui accorder la parole, nous allons nous rendre avec vous à Goma, au Nord Kivu. Bienvenue, vous êtes sur place, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, comment
bonjour
ça se passe?
Bonjour à vous et bonjour à tous les habitants de la radio Okapi.
Bonjour, nous savons que Goma est une province où il y a encore quelques problèmes d'insécurité, avec notamment des groupes armés qui pillulent. Est-ce que à Goma vous avez aussi un problème de circulation d'armes illégales, d'armes et qui cause l'insécurité dans votre ville, parce qu'on en parle beaucoup d'ailleurs?
Oui, bien sûr, monsieur le journaliste, ici à Goma, la circulation d'armes est observée. Et surtout, vous savez qu'ici, nous vivons la saison de la guerre. Et dans les champs de bataille, laissez-moi utiliser ce terme, dans les champs de bataille, il y a quelquefois les soldats qui prennent fuite et abandonnent leurs armes. Alors, la population, soit les habitants, approche. Et ils prennent ses armes et ils reviennent dans la ville pour les utiliser vous savez, pour déranger la population, pour piller à main armée, comme les voleurs à main armée.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous suggérez pour mettre fin à cette situation des populations qui récupèrent des armes? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi, je sais que c'est le gouvernement a l'autorité. Moi, je sais que le gouvernement a l'autorité de mettre fin surtout à tout cela, soit à contrôler maison par maison. Ils peuvent passer maison par maison, habitation par habitation, pour contrôler partout. Et cela va mettre peut-être fin. Je crois que c'est ça.
Merci beaucoup. Bienvenue. Vous intervenez depuis Goma. Georges, vous êtes aussi au Nord Kivu, à Beni, dans la province. Au Nord Kivu, précisément dans la ville de Beni. Bonjour.
Bonjour.
Dernièrement, les habitants de Lubero ont manifesté en exprimant leur ras-le-bol face au mutisme observé dans les chefs des autorités politico-administratives provinciales et nationales sur à propos de plusieurs cas liés à l'insécurité dans cette région. Est-ce que vous connaissez aussi des problèmes de sécurité à cause de la circulation illicite d'armes?
De ma part, je dis que c'est la responsabilité de notre gouvernement. Parce que on voit notre armée congolaise, parce que je ne pas sûr de laisser des armes. Je suivais un autre auditeur qui disait non, les soldats laissent des armes et la population récupère. C'est pas ça. Mais j'ai constaté que ce sont des soldats qui vendent des armes en population. Et on a ici à Denis, c'est une sécurité totale pour le moment. Pas de mots à cause de cela. Tu veux découvrir, non, ce n'est pas même les soldats qui ont tué des gens, mais ce sont des civils. Alors vraiment, avec cela, on trouve ça. Ce sont des choses bidonnantes, d'accord. Les armes. Et je peux poser une question.
Oui, à qui disons à notre invité.
À notre invité, oui, l'invité.
Oui, allez-y.
Les 80 000 d'armes qui entrent dans notre pays. Voilà. Si tu as dit 84, hein.
Oui, c'est 84 précisément. 1000 armes qui entrent par an en République démocratique du Congo de façon illégale.
C'est 84 000 d'armes entre au profit de qui ou de quel groupe d'armée.
Voilà. Merci beaucoup, Georges, pour votre question, Monsieur José Ikongo.
Merci, je remercie Georges, mais vous allez quand même accorder un peu de temps pour...
Il nous reste à peu près 7 minutes pour terminer
l'émission. D'accord. Le 80, ça c'est le rapport de Nations Unies. Donc le 80, c'est au niveau de vitesse des rotations. Au niveau des vitesses des rotations.
Ça signifie quoi?
Je vous ai dit ici, il y a les forces négatives qui sont là, il y a les pays frontaliers qui sont là, il y a également le système de courtage, puisque nous pouvons nous retrouver à Kinshasa, mais il y a quelqu'un qui se trouve par exemple en France ou en Belgique qui commande les armes pour la République démocratique du Congo, pour les forces négatives, puisque en République démocratique du Congo, c'est le chef de l'État qui commande les armes pour les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Ça, c'est connu.
Oui. D'ailleurs, quelques informations. Pendant la rébellion, des avions, d'après les informations qu'on a, des avions décollés de Bratislava, de Sofia, de Kiev et de plusieurs autres capitales de l'Europe de l'Est et de certains États de l'ex-Union soviétique qui atterrissaient à Goma, Kisangani, Guadeloupe pour déposer des armes.
Voilà, il y a des images. Il y a des images même pour ça. Peut-être on va organiser des journées de Congo sans armes et vous allez voir des images étonnantes. Donc, c'est ça la vitesse des rotations. Là, ce n'est pas contrôlé. Ce n'est pas contrôlé par la République démocratique du Congo. Alors, pour faire face à tout ça, je crois, la République démocratique du Congo a prévu 5 piliers que on doit faire éradiquer ces phénomènes de armes légères et de petits calibres. Il y a d'abord la coordination, coopération régionale et internationale. Vous avez en deuxième lien les mesures législatives. Troisième lien, vous avez la capacité opérationnelle, je vais vous expliquer mot par mot. Vous avez les échanges et des informations et tenues de registre, ce qui est exigé par le programme d'action des Nations Unies de 2001. Et vous avez en dernier lieu le contrôle, saisie et confiscation et destruction de ces armées-là. Alors, pour que la République démocratique du Congo arrive à tous ces niveaux, la République démocratique du Congo a d'abord commencé par créer la police des frontières. Cette police existe. Et dans la commission que la République démocratique du Congo a créée, il y a 27 ministères qui sont regroupés et les ministères clés sont le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Et pour arriver à juguler cette crise, nous devons, nous, tous Congolais, mobiliser pour aider notre République à nous aider. C'est-à-dire, là où vous trouvez, effectivement, la loi sur les armes légères et petits calibres n'est pas encore sortie, c'est au niveau du Parlement, mais là où vous trouvez que votre voisin qui est dans la maison, votre voisin qui circule, qui a une arme, vous devez dénoncer. Et le problème que nous avons dans notre République, c'est-à-dire, il y a la peur. Quand je dénonce, peut-être ce monsieur va appeler les autres pour me tuer. Il faut dépasser ces...
Il faut garantir la sécurité aux personnes qui vont les dénoncer.
Oui. Mais la sécurité, je vous répète encore, elle est garantie. En ce qui concerne le contrôle, au niveau du contrôle, nous sommes aidés actuellement par la communauté internationale, qui a commencé d'abord par la réforme de la police et de l'armée. Ensuite, il y a également l'ONG MAG, ensemble avec PAREC, ils ont travaillé et nous avions détruit à peu près 97 661 armes jusqu'à aujourd'hui et 472
voilà.
Tonnes de
munitions. On va donner quelques secondes à Séraphin qui est à Goma. Bonjour Séraphin, vraiment en 15 secondes et nous, on est à la fin de l'émission. Oui. Votre contribution.
Oui, nous remercions pour le développement de l'entreprise. C'est une tragique de ceci. Et ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'ordre pratique de la situation qu'on a fait. C'est suite d'abord suite à des différentes guerres qu'a connu notre pays depuis 1986 avec de la FIDEL. Jusqu'à nos jours, nous sommes en train encore de connaître les différentes rébellions de notre pays. Mais ce que j'attribue comme une femme de rôle que je peux attribuer à cette genre de pratique, c'est quoi? C'est l'oisivité. Aujourd'hui, vous avez M. Claude, voire même, nous sentions les joueurs qui s'en donnent aujourd'hui à cette pratique, c'est-à-dire l'arme pour gagner leur vie. Donc,
merci
beaucoup. Ce que je dis à notre gouvernement, c'est de créer de bons emplois aux jeunes gens.
Créer des emplois aux jeunes gens. Merci beaucoup. Clôturer, monsieur Jevé.
Donc, ce qui.
En 15 secondes.
Oui, oui, ce qui reste, c'est tout simplement la sensibilisation du public.
Mmh.
Nous devons sensibiliser le public congolais et que les autorités de leur côté, ils font un effort terrible pour convaincre cette circulation de ces armes, y compris la communauté internationale qui appuie la République démocratique du Congo.
Merci à vous, M. José Congo, d'avoir participé à cette émission Parole aux auditeurs. Vous êtes directeur et secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et des réductions de violences armées CNCALPC, une structure du ministère de l'Intérieur.
Allô?
Demain mercredi, nous parlons de la santé. Près de 39% des cas de décès en RDC sont causés par le paludisme ou malaria. Selon le programme national de lutte contre le paludisme, la malaria frappe plus les enfants et les femmes enceintes. Selon les statistiques, sur 5 enfants malades amenés à l'hôpital, 4 souffrent de la malaria. Alors, question comment lutter contre cette maladie endémique, ce sera là le thème de demain. Merci à Tizim Poutou, Piero et Lamiji, Maombi Makomia, notre stagiaire, Eddie Marquis et Ben Kabamba qui m'ont aidé à vous présenter cette émission.